Aujourd'hui, nous recevons M. Philippe Engelhardt. Vous êtes né le 26 février 1942.
Ça se prononcerait Engel, enfin bon, Engel, c'est pas grave.
Bon, à Martigues. Vous avez étudié l'économie à la faculté de Caen, tout en suivant des cours de philosophie, d'histoire, de psychologie et de mathématiques. Vous avez écrit une thèse sur la politique monétaire et la gestion de la trésorerie de la firme. Vous avez écrit en 1975 également une thèse sur le prix de cession interne et la logique organisationnelle des firmes multinationales. Vous vivez depuis le début des années 80 dans un quartier populaire de Dakar. De 77 à 82, vous avez enseigné la recherche opérationnelle, la microéconomie et les relations monétaires internationales à la faculté de droit et de sciences économiques de Dakar. En 83, vous avez été détaché à ENATM Tiers-Monde, organisation internationale du Tiers-Monde, dont le siège est à Dakar. Depuis 98, vous avez réintégré le poste de rattachement à l'Université du Maine, où vous enseignez l'analyse économique et l'intelligence économique, tout en continuant à participer aux orientations d'ENDA. Vous venez de co-diriger à la requête de la FAO une étude consacrée aux problèmes fonciers en Afrique subsaharienne et qui contribue à la relance du programme d'éradication de la pauvreté rurale dans le monde. Vous êtes donc un spécialiste en économie de la recherche, développement et politiques économiques, développement rural et agriculture, épidémiologie, démographie, programmes et politiques de santé et bien sûr spécialiste sur le thème de la mondialisation. Vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages. En 1998, vous avez fait paraître « L'Afrique miroir du monde », plaidoyer pour une nouvelle économie, édité à l'Arléa, à Paris. Vous avez également fait paraître « Encyclopédie médicale de l'Afrique », coédition Edna Librairie Larousse, en 1985. Également « L'homme mondial, les sociétés humaines peuvent-elles survivre ?» Et enfin, en 1996, « La troisième guerre mondiale est commencée », chez Arléa. Monsieur Philippe Engelhardt, maintenant je vous laisse la parole.
Bon, enfin écoutez, on ne va pas faire de coquetterie orthographique ni de prononciation. En tout cas, tout ce que vous venez de dire ne nous rajeunit pas, c'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Alors, mesdames, messieurs, que nous le voulions ou non, pour le meilleur ou pour le pire, eh bien, la mondialisation est en marche forcée. Cette longue marche ne date pas d'aujourd'hui. La mondialisation commence avec le peuplement de la planète par notre lointain ancêtre africain, Homo erectus. Génocide, destruction des cultures, esclavage de masse, cupidité, violence inouïe, mais aussi parfois rencontres fécondes, seront du voyage. La mondialisation contemporaine, elle, se traduit par la multiplication des interfaces entre les économies, les firmes, les sociétés et les cultures. Elle s'accélère dans les années 70 par le gonflement des échanges commerciaux, le flux croissant des investissements directs et donc la multinationalisation de plus en plus rapide des firmes. Évidemment, la révolution de la communication n'y est pas pour rien. Mais alors, il y a une question quand même qu'on a envie de poser. La vraie mondialisation est-elle bien celle dont on parle ? Après tout, peut-être qu'un train, peut-être qu'une mondialisation en cache une autre. Nous avons du mal à en prendre conscience, mais une grande partie du monde, en fait, vit en dehors de ce que nous considérons, non sans une certaine arrogance, comme la modernité, celle d'Internet, des branchés, des réseaux, et j'en passe. À l'orée du troisième millénaire, au moins 2,5 milliards d'humains vivent sans doute avec moins de 2 $ par jour. La réalité, c'est ça. Disons-le, la vraie mondialisation, c'est d'abord celle de la pauvreté. Alors, certains pensent que le marché généralisé sera porteur de prospérité pour tous. Laissons, disent-ils, jouer le marché librement. La croissance de l'économie mondiale tendra à égaliser les niveaux de vie qui ne cesseront de s'élever, et puis la pauvreté finira par disparaître. Malheureusement, eh bien, rien de tel n'apparaît, du moins pour l'instant, à l'horizon. Les études les plus récentes montrent qu'il n'y a aucune convergence, hélas, du revenu par tête et des taux de croissance dans le monde. Les inégalités continuent de se creuser entre pays riches et pays pauvres. Je ne vais pas bombarder des chiffres, mais enfin, deux quand même là, qui sont importants. Si en 1960, si en 1977, le revenu moyen était aux États-Unis 40 fois supérieur à celui des pays pauvres, eh bien l'écart aujourd'hui est de 80. En fait, une grande partie de la planète vit dans la pauvreté. Ces pauvres résident dans leur très grande majorité dans les pays du Sud et, singulièrement, dans les zones rurales. Ils vivent le plus souvent d'économies de briques et de broc, c'est ce qu'on a envie de dire, qui sont des économies que l'on qualifie d'informelles. Alors, pour ma part, le mot informel me gêne un peu. Je trouve que ce n'est pas le meilleur. En effet, les économies des pauvres sont structurées par tout de même une logique de survie et une certaine logique de solidarité. Alors, je préfère, de ce point de vue, à la suite d'Enda Tiers-Monde, d'ailleurs, eh bien, les qualifier d'économies populaires. Quoi qu'il en soit, économie populaire, donc, mais aussi économie criminelle, prolifère au moins aussi vite que ce qu'on serait tenté d'appeler, de qualifier l'économie ordinaire, qui elle-même, économie ordinaire, qui elle-même se criminalise dans ses marges. Alors la question fondamentale est d'abord de se demander pourquoi la pauvreté est si prégnante et si vaste, et surtout de savoir comment en venir à bout. Si nous ne faisons rien, il ne paraît pas très pessimiste d'affirmer que nous n'allons pas vers un marché unifié, mais vers un monde divisé, non par les idéologies ou la guerre conventionnelle, mais par la pauvreté, la clochardisation, l'incivilité, le ressentiment, le crime et les terrorismes qu'on pourrait qualifier de terrorisme du désespoir. La vraie mondialisation et celle de la pauvreté, c'est la première idée que je voudrais développer. L'espérance de vie est près de 80 ans dans les pays riches, tout le monde connaît ces chiffres, de 40 ans dans les pays les plus pauvres. Ces statistiques ont quelque chose de, bien sûr, de réducteur, mais dans leur brutalité, elles nous questionnent. Et ce questionnement, le voilà. Pourquoi l'inégalité économique ? Pourquoi une telle inégalité devant la vie, la maladie et la mort ? Et cette question ne peut que rebondir, bien sûr. La modernité, ou une variante de la modernité, était-elle pensable dans d'autres régions du monde, dans d'autres régions que l'Occident ? La réponse, sans doute, ne peut être qu'approximative et bien modeste. Eh bien, permettez-moi d'en prendre le risque avec vous. Encore faudrait-il d'abord savoir ce qu'on peut entendre par économie et société moderne. Eh bien, pour faire très bref, bien sûr, une économie moderne se caractériserait par un marché suffisamment diversifié et intégré, donc une certaine variété de produits, donc des filières en nombre important ou relativement important et connectées entre elles, par une technologie adaptée aux problèmes de production que l'économie doit résoudre, par un niveau de productivité tel que la grande majorité de la population peut assurer convenablement ses besoins privés, mais aussi ses besoins collectifs. La modernité semble encore impliquer quelque chose qui ressemble à un état de droit, donc l'adhésion du plus grand nombre à un minimum de règles de valeur. Ces valeurs et ces règles, entérinées par une loi fondamentale ou constitution, qu'elles soient implicites ou explicites, eh bien supposent un minimum de liberté et d'équité. Ces valeurs et ces règles suscitent à quelque chose de fondamental qui est la confiance. Cette confiance est renforcée par une certaine solidarité qui empêche de trop grandes inégalités économiques et sociales. Eh bien, il me semble que toutes les populations du monde avaient potentiellement la capacité d'aboutir à une économie et à une société plus ou moins proche du modèle de modernité, très rudimentaire, bien sûr, que je viens d'esquisser. Alors, vous allez me poser la question, mais pourquoi ? Pourquoi potentiellement toutes ces populations avaient cette vocation ? Eh bien, tout simplement, me semble-t-il, parce que le cerveau de Sapiens Sapiens, Homo Sapiens, eh bien, est à peu près le même sur toute la planète, à ce que nous sachions. Il était donc fortement plausible qu'à la longue, eh bien, des problèmes analogues suscite des réponses non pas peut-être identiques, mais proches. Question donc, qui nous interpelle, comme on dit aujourd'hui, pourquoi des inégalités et des diversités, parfois à peine croyables ? Réponse, tentative de réponse, eh bien les méandres de l'histoire n'ont pas permis à toutes les sociétés de produire et surtout d'achever leur propre modernité. Le hasard y a sa part. L'histoire longue connaît parfois des collapsus troublants, mais aussi la configuration singulière de certains environnements. Par exemple, l'accès ou non à la mer, ou l'hostilité ou la clémence du climat. Mais, et il y a un mais, les séquelles de ce qu'il faut bien appeler les violences de l'histoire ont un rôle au moins aussi déterminant que l'environnement et les écosystèmes dans la différenciation des niveaux de développement. Il faut bien le dire, je crois, beaucoup de sociétés ont été abaissées et leur capacité de réponse aux défis de l'histoire diminuée. Beaucoup de cultures sont des monuments à jamais inachevés. La conquête du monde par les Européens à partir du XVe siècle, petite Europe, hein, de rien du tout, c'est quand même étrange d'ailleurs, eh bien elle met un frein à l'évolution d'un grand nombre de sociétés. Leur capacité endogène de développement est rompue, au moins pour un temps. Ce fut très certainement le cas de l'Afrique, profondément meurtrie dès le XVIe siècle. Autre cas de figure dramatique, l'effondrement des empires, porteurs de symboliques communes, ainsi que d'échanges économiques et culturels, induit une perte de repères politiques et psychologiques. Ce fut le cas, bien sûr, récemment, l'Empire soviétique et la Yougoslavie, dont l'implosion suscite un repliement ethnique ou clanique que, dramatiquement, nous connaissons. Au vrai, ce repliement était sans doute en germe dans l'effondrement de l'Empire ottoman et de l'Empire austro-hongrois, mais c'est une autre histoire. J'aimerais en parler, mais ce sera peut-être pour une autre fois. Quoi qu'il en soit, les différences entre les niveaux de développement se creusent dans l'histoire, mais plus tardivement qu'on le pense généralement. Angus Madison, M-A-D-D-I-S-O-N, eh bien, Angus Madison a effectué, c'est un économiste américain qui a travaillé pour l'OCDE, il a effectué un travail de titan en essayant d'étudier sur tous les continents la croissance économique depuis 1820. Eh bien, que nous dit-il, ce Madison ? En 1960, eh bien, la différence se creuse entre les continents, mais elle n'est pas encore considérable. Le PIB par tête est de l'ordre de 1 540 $ pour l'Asie, 2 238 pour l'Amérique latine. En Corée du Sud, à la même époque, le PIB par tête n'est que de 1 300 $. L'Afrique elle-même ne s'en sort pas encore si mal, avec un PIB par tête égal à 1 111 $. La différence aujourd'hui, bien entendu, n'a plus rien à voir. Le PIB des États-Unis est 80 fois celui de l'Afrique subsaharienne. Il reste que la croissance de la plupart des pays du Sud est indéniable, quoi qu'on dise. Mais depuis 20 ans, je crois que nous perdons totalement de vue que croissance et développement sont deux choses différentes. Le développement économique se traduit par la diversification et l'intégration des économies. L'une et l'autre suscitent des synergies de plus en plus fréquentes entre les régions, les secteurs et les filières. Au risque de faire bref, et là je suis quelque peu les nouvelles théories de la croissance, le développement n'est rien d'autre, ou ne serait rien d'autre, qu'une séquence de synergies réussies. Ces synergies elles-mêmes sont propices à l'innovation, tirées par une demande en expansion et par une classe moyenne de plus en plus large, eh bien la productivité augmente ainsi que la croissance. Mais alors, c'est parce que le développement est insuffisant que la pauvreté stagne ou s'amplifie. La croissance, si elle a lieu, ne concerne que certains secteurs de l'économie. La prospérité relative de ces secteurs n'a aucun effet d'entraînement sur le reste de l'économie. La croissance ressemble finalement à une sorte de bulle qui se dilate, qui se gonfle, mais sans incidence sur la pauvreté. Ou plutôt si. Les pauvres se sentent encore plus pauvres de la richesse souvent arrogante d'une minorité. En fait, les pays du Sud ont suivi deux voies assez différentes. Celle du développement d'une part et celle de la croissance sans développement d'autre part. Exemple, eh bien, la Corée du Sud a su promouvoir un développement relativement égalitaire qui a conduit à une croissance forte et à l'élimination de la quasi-totalité de la pauvreté. La stratégie d'exportation, la stratégie d'export, comme on dit pour faire bref, eh bien elle a été profitable à la Corée du Sud et aux Coréens parce qu'elle a été précédée et accompagnée d'un effort de développement, au sens que j'ai donné précédemment. Par contraste, le Brésil, dont certains secteurs ont un niveau technologique comparable eh bien, à celui de l'Europe et des États-Unis, ne vient pas à bout d'une pauvreté résistante. De même, l'Inde traite d'une pauvreté massive qu'une croissance plus qu'honorable ne parvient pas à réduire. Les trop fameux ajustements, dans le meilleur des cas, hélas, ont fait de la croissance, mais pas de développement, ou peu. Ils ont feint de considérer que toutes les économies étaient en quelque sorte similaires et qu'elles étaient justiciables de la même politique, à savoir la croissance tirée par les exportations avec, en toile de fond, la mondialisation économique, magnifique, etc. C'était bien là l'erreur. Bien souvent, le marché intérieur de ces pays n'était ni suffisamment diversifié, ni suffisamment intégré, en un mot, non suffisamment développé. Conséquence, eh bien, la croissance des exportations, quand elle a eu lieu, n'a bénéficié qu'à un epsilon de la population, 10%, 15%, sans beaucoup d'effet d'entraînement sur le reste de l'économie. La pauvreté n'a pas été réduite, elle a même souvent empiré. Exemple, le Mali a connu ces dernières années un taux de croissance plus qu'honorable de 6%, c'est presque un taux de croissance asiatique, enfin avant la crise, mais même la Banque mondiale reconnaît que la pauvreté a augmenté depuis 4 ans de 23%. Bref, au fil du temps, des populations entières ont été harassées par une pauvreté massive où l'intérêt myope des dominants a sa part de responsabilité, mais aussi l'incompétence et le dogmatisme économique. Les couches de pauvreté se sont en quelque sorte empilées comme des tranches napolitaines d'un gâteau, mais hélas, s'il faut poursuivre la métaphore, avec la chantilly en moins. Au fond, les pauvres du monde, eh bien, sont des naufragés de l'histoire. Nous en prenons difficilement conscience, mais notre planète est en passe de devenir un gigantesque bidonville, insalubre et surpeuplé, dont n'émergent finalement que quelques îlots de prospérité connectés en réseaux, eux, de plus en plus denses. Ce vaste bidonville, quant à lui, eh bien, c'est l'empire du crime et de l'informel. Cet empire prolifère sur fond de crise environnementale, ce que nous allons maintenant examiner. Économie populaire et criminelle prolifère, c'est la deuxième idée que je voudrais examiner avec vous. Des centaines de millions de femmes et d'hommes n'ont ni la compétitivité, ni le savoir qu'on pourrait qualifier de normalisé pour s'insérer dans les réseaux de l'économie moderne. C'est en cela qu'ils sont pauvres et qu'ils sont exclus d'une certaine façon de la modernité. Un ordre de grandeur, le revenu par tête moyen en Occident est de l'ordre de 20 000 dollars. Le coût d'un poste de travail dans l'industrie moderne est à la mesure de ce revenu 80 000 dollars. En comparaison, plus d'un milliard de personnes vivent avec moins d'un dollar par jour. Conséquence, eh bien, le coût d'entrée dans l'économie moderne est si élevé qu'il constitue une barrière quasi infranchissable pour la plus grande partie des populations du tiers-monde. Autre conséquence, eh bien, ces populations n'ont d'autre choix que de construire une autre économie ou de réactiver des circuits traditionnels d'échange. Cette autre économie, eh bien, nous l'appellerons donc économie populaire. En ce point, il faut nous poser une question cruciale. Les pauvres se construisent une économie qui leur permet de survivre à bas prix, ce qu'on voit dans toutes les capitales du tiers-monde, dans les campagnes et ailleurs. Bien. Mais comment expliquer que les coûts et les prix de cette économie soient inférieurs à ceux de l'économie moderne, dont la productivité est infiniment plus élevée? Alors, plusieurs explications peuvent être invoquées. Les échanges s'insèrent dans un système de relations sociales solidaires dont le profit n'est pas l'argument essentiel. Voilà, premier élément d'explication. Par ailleurs, la faible irrigation monétaire de ces économies contraint les partenaires à pratiquer une certaine modération des prix. Là, quelque chose qui ressemblerait à la loi quantitative de la monnaie, eh bien, aurait une certaine incidence. On peut l'invoquer. Bon. Maintenant, la proximité de l'économie moderne permet aussi de recycler déchets et matériaux de récupération à coût faible. Autre explication, qui est importante, eh bien, c'est que les biens produits par l'économie populaire sont en général d'une qualité moindre que ceux produits par l'économie moderne. Et leur variété est évidemment beaucoup plus réduite. Il existe cependant une explication plus fondamentale. C'est la nature même de la production de cette économie qui permet d'ajuster les coûts et les prix aux maigres revenus des pauvres. Alors, quelle est cette explication ? Elle est simple. L'économie des pauvres utilise des procédés de production économes en capital et fortement intensifs en travail. Travail dont la rémunération est le plus souvent celui de la simple survie. Exemple, un petit menuisier installe son atelier sur 3 mètres carrés entre deux immeubles d'une capitale africaine. Moi, j'ai vu ça souvent. Son coût d'immobilisation, il est quasi nul. Voilà évidemment qui rappelle les débuts, ou qui n'est pas sans rappeler les débuts, de la révolution industrielle. Quelques estimations chiffrées de l'économie populaire suggèrent son ampleur incroyable. 70% de la population de l'Inde, du Brésil et du Mexique seraient insérés dans ce qu'on appelle le secteur informel, mais moi je préfère appeler donc l'économie populaire, et sans doute 80% de celle de l'Afrique. D'une certaine façon, les économies populaires sont une réponse à la pauvreté, mais une réponse imparfaite, puisque dans le cas contraire, eh bien, la pauvreté disparaîtrait, ce qui, hélas, n'est pas le cas. En effet, faute de capital et de formation suffisante, cette économie ne peut offrir que des revenus faibles qui eux-mêmes suscitent une demande asthénique. En retour, cette faible demande n'incite guère les petits producteurs à des efforts de productivité que, de toute façon, faute de crédit, malheureusement, on ne prête qu'aux riches, ils auraient bien du mal à financer. En fait, la pauvreté se traduit dramatiquement par un besoin non satisfait de biens et de services de base, eau potable, assainissement, santé, éducation, énergie, communication, que ni l'économie populaire, ni souvent les États, ne sont capables de fournir. Or, ce or est important, c'est la plus ou moins grande facilité d'accès à ces biens et services de base, ce que je viens d'énumérer brièvement, qui fait que la vie est ou non supportable, que la vie est ou non humaine. Alors c'est vrai que les pauvres du Sud vivent sans doute mieux que ne le laissent supposer les statistiques. Du moins, lorsqu'ils ne subissent ni la guerre, ni la rapine, ni des discriminations trop cruelles, ni des épidémies trop meurtrières comme celle du sida. L'entraide n'y est pas pour rien, ni l'ingéniosité, ni le courage des femmes. Dire qu'elles portent sur leurs épaules le monde des pauvres n'a rien d'exagéré. Il reste que ces pauvres vivent dans un équilibre fragile que la maladie ou la mort, souvent, vont compromettre irrémédiablement. On vit aujourd'hui dans le tiers-monde comme dans les régions pauvres de l'Europe du début du siècle, mais avec le fardeau de la modernité en plus. Pollution, encombrement, insécurité latente sont le lot quotidien des pauvres. Encore heureux quand les riches ne leur contestent pas les quelques espaces où ils tentent de survivre, ce qui est le cas en Amérique latine, mais ce qui devient le cas aussi en Afrique subsaharienne. Encore heureux quand les escadrons de la mort ne viennent pas tout simplement les éradiquer. Évidemment, c'est la solution de la pauvreté. Une autre économie émerge, plus ramifiée, mais aussi plus souterraine, qui est l'économie criminelle. Cette dernière puise ses racines souvent dans la pauvreté. On le voit bien avec les paysans producteurs de coca en Colombie, dans le Triangle d'Or, au Maroc avec le cannabis, et bien entendu ailleurs. Cette économie criminelle puise encore ses sources dans des traditions anciennes, comme c'est le cas des mafias italo-américaines, japonaises, chinoises, dans les fameuses triades de Hong Kong, mais aussi colombiennes, mexicaines, turques, albanaises, j'en passe. Mais l'économie criminelle explose avec le dépérissement du politique, de la règle de droit et de l'éthique. Ce dépérissement qu'on constate dans les ex-républiques de l'Union soviétique conduit à la construction délibérée d'économies mafieuses. Alors, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, de statistiques. Il faut savoir quand même que presque tous ces chiffres convergent vers celui que nous donne Interpol. 40% du PIB russe seraient aux mains de la mafia, et ce chiffre ne paraît pas exagéré. Alors, se demander comment et pourquoi on a pu en arriver à cette situation insensée ne relève pas de la simple curiosité intellectuelle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, la loi, au sens où on l'entend dans les démocraties occidentales, n'a jamais eu la possibilité de pénétrer réellement les esprits. Ni sous l'ancien régime soumis à l'arbitraire du tsar, ni sous le régime communiste où la loi était sous le boisseau du parti, tout puissant, et de son chef. Sur ce point, le constat d'échec est quand même important. Le communisme n'a su gérer ni l'économie, ni le politique, ni surtout le droit. C'est bien la raison pour laquelle tout le monde en Russie, comme en Afrique d'ailleurs à certains égards, pense qu'il vaut mieux vivre dans le flou. Mais de la société du flou, je reprends là le terme d'une analyste, mais de la société du flou à la mafia généralisée, malheureusement, il n'y a qu'un pas. Saint Augustin a raison quand il dit, une petite citation latine n'a jamais fait de mal à personne, « Remota itaque justicia, quid sunt regna, nisi mania latrocinia. » Ah, voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Traduction libre de votre serviteur, privées de loi, les sociétés ne sont plus que de vastes brigandages. Quoi qu'il en soit, la marchandisation de l'ex-économie soviétique va se faire évidemment au profit de la nomenclatura. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'une classe au pouvoir se suicide rarement, même au nom du capitalisme. Mais ces capitalistes d'un nouveau genre n'ont aucune raison de jouer le jeu du marché. Ce n'est pas une économie capitaliste ni une société de droit qui émerge en Russie, mais une économie, une société mafieuse. Autrement dit, le bon coup l'emporte sur les avantages de la continuité des échanges et de la production. Pour le plus grand nombre, écrit une analyste, et je crois qu'elle a tout à fait raison, exploiter les failles du système est plus avantageux que d'inventer de nouvelles règles du jeu. Joseph Stiglitz, ancien numéro 2, enfin ex-numéro 2 de la Banque mondiale, ne se fait pas non plus beaucoup d'illusions. Alors qu'est-ce qu'il nous dit, Joseph Stiglitz ? Il dit « La motivation du profit combinée à la libéralisation du marché peut ne pas inciter à créer des biens, mais plutôt à provoquer le pillage des entreprises et le transfert des richesses à l'étranger. » Bref, économie populaire et économie criminelle étendent leur filet sur la quasi-totalité de la planète. Elles se mondialisent avec des connexions religieuses, voire intégristes, ou terroristes, pour le moins inquiétantes. Et cette promiscuité, hélas, a toutes les chances de s'étendre. En effet, les guérillas et les groupes terroristes sont en train de perdre leur parrain. Je veux dire certains États un peu plus soucieux de respectabilité que par le passé. Sentier Lumineux et Tupac Amaru, Pérou, Tigre Tamoul du Sri Lanka, Guerrillero Philippin, Guerilla UMRG du Guatemala, GI Algérien, là encore j'en passe, eh bien ils puisent dans le trafic de drogue, et comme ils disent, je pense à ceux du GIA, le trabendo, trafic en tout genre, eh bien ils puisent de nouvelles ressources à coût réduit. Mais pour ce faire, évidemment, ils doivent pactiser avec la mafia, et donc faire quelques entorses à leur intégrité, ou à leur pureté parfois obsessionnelle. Du coup, et là je crois qu'il faut qu'on soit lucide, c'est que la paix, hélas, n'est pas pour demain. En effet, pourquoi accepter la paix des braves quand on peut faire fortune tout en se donnant bonne conscience ? D'un autre côté, la mondialisation criminelle finit par corrompre économie officielle et populaire, qui elles-mêmes entretiennent d'ailleurs des relations complexes. L'argent sale est recyclé à tour de bras, mais ce recyclage à grande échelle n'aurait pas été possible sans la mondialisation financière, ni les paradis fiscaux, ni les banques awala, ces fameuses banques ethniques, qui vont jouer en quelque sorte le rôle de sas vers ce qu'on appelle aujourd'hui les zones à haute densité légale. Résumons, mondialisation criminelle, informelle et officielle, ça bouche de façon inquiétante, parce que le licite et l'illicite sont des catégories mentales qui n'appartiennent en fait qu'à un petit nombre de joueurs. Et aussi parce que le terreau de la pauvreté s'y prête plus que jamais. Duplication frauduleuse, piratage informatique, contrefaçon sur les médicaments, contrefaçon commerciale, passage organisé de clandestins vers les pays riches, trafic d'humains sont devenus monnaie courante. Mais cette monnaie frauduleuse finit par corrompre l'économie officielle et bien sûr les économies populaires. Pour une fois, la fameuse loi de Gresham, eh bien, elle est vérifiée, la mauvaise monnaie chasse la bonne. La logique du marché officiel viendra difficilement à bout de la pauvreté et de la criminalité. C'est la troisième idée que je voudrais développer avec vous. La criminalité du monde constitue avec l'environnement ainsi que la montée de la pauvreté et des inégalités, manifestement l'un des plus grands défis de ce siècle. Mais il est fort probable que tous ces défis soient en quelque sorte systémiques. En d'autres termes, on ne peut pas les circonvenir séparément. Alors, le fait d'imaginer que le grand marché global, déréglementé, puisse venir à bout de la pauvreté, du fanatisme et de la criminalité, est peut-être bien un rêve qui pourrait finir en cauchemar. Cependant, fort de l'expérience américaine, de la longue plage de croissance américaine, eh bien, nous sommes tentés de voir dans la mondialisation, la révolution technologique, la croissance, la solution de la pauvreté et du crime. Nous nous disons, oh, un boom de prospérité pendant 10 ans chassera tous ces miasmes du passé. Pessimisme de la raison, optimisme du cœur, disait Gramsci. En tous les cas, nous avons le devoir de lucidité. Et si nous exerçons ce devoir, cette obligation de lucidité, il faut bien dire que le tableau n'est pas si reluisant, au moins pour 3 raisons. 1. Rien ne permet de penser que la croissance ordinaire viendra à bout de la pauvreté et de l'exclusion. 2. Cette croissance n'est d'ailleurs peut-être pas si assurée de durée. 3. La mondialisation officielle pourrait bien être compromise par la prolifération de la mafia et de l'économie criminelle. À charge pour moi de développer chacun de ces points. Première raison, la croissance conduira peut-être au plein emploi des personnes qualifiées, mais la probabilité d'exclusion ou d'appauvrissement des travailleurs peu qualifiés n'est pas mince, même en Europe. Il devient de plus en plus évident que le plein emploi, au moins en Europe, ne sera pas tout à fait le plein emploi. On parle maintenant de chômage structurel de 5%. Avant-hier, je lisais dans Le Monde, parler d'un taux de chômage structurel, ça fait bien avec des guillemets, eh bien de 8%. Alors, on est loin du plein emploi, plein emploi. Probablement donc, excluer travailleurs peu ou non qualifiés, quand je dis probablement, c'est très probablement, ils ne bénéficieront que faiblement de la croissance. En tous les cas, on ne voit nulle part la précarité diminuer en Europe, particulièrement en France, bien que la croissance, indiscutablement, soit plus forte. Alors, il y a une question quand même qui vient à l'esprit. La situation va-t-elle se modifier favorablement? Ce qui pourrait survenir. Eh bien, hélas, même en supposant que la croissance se poursuive à un rythme soutenu, honnêtement, rien n'est moins sûr. En premier lieu, les ressources publiques consacrées à la lutte contre la pauvreté, à l'éducation et à la réinsertion sociale sont de plus en plus contestées. Et elles le seront d'autant plus que nous entrons dans l'ère de ce qu'on peut appeler la concurrence fiscale. On en parle beaucoup en ce moment, mais c'est une réalité. Deuxième lieu, les fonds de pension, les fameux fonds de pension, financent pour moitié les capitaux propres des grandes firmes françaises et une partie non négligeable des capitaux propres des grandes firmes européennes. Leurs gestionnaires, pardonnez-moi cette expression un peu cavalière, mais leurs gestionnaires donc, qui ne font pas dans la dentelle, hésiteront moins que par le passé à nommer des conseils d'administration à leur convenance. Et on ne voit pas pourquoi ils ne le feraient pas. Ces derniers, on commence d'ailleurs à le voir, c'est-à-dire ces conseils d'administration, au prix du chantage à la délocalisation, exerceront toute la pression possible en faveur d'une baisse de la fiscalité. Mais ce serait alors la fin de l'État social, avec un double risque, celui d'aggraver évidemment la pauvreté, mais aussi celui de réduire la capacité collective de monnayer l'appartenance à la nation de groupes culturels et ethniques de plus en plus hétérogènes, c'est une conséquence de la mondialisation, mais de groupes en même temps particulièrement fragilisés, ou du moins souvent fragilisés. Eh bien, c'est l'argument fort du philosophe allemand Habermas, argument qu'on ne peut traiter par-dessous la jambe. Sans résilience sociale suffisante, criminalité, mafia en tout genre, terrorisme et marginalité prospéreront plus que jamais, même en Europe. La même logique, bien sûr, s'applique a fortiori aux pays pauvres.
Soyons lucides, une grande partie des populations du Sud a encore moins de chances que par le passé d'entrer dans le club assez fermé de l'économie moderne, qui demande un haut niveau de qualification et d'éducation. Ce point de vue, évidemment, est renforcé par le fait que les investissements directs des firmes multinationales sont moins motivés par la baisse des coûts que par l'implantation sur des marchés porteurs. Une étude américaine récente ne nous laisse quasiment aucun doute sur ce point, longtemps controversé. Les firmes privilégient et de loin une stratégie horizontale tournée vers des marchés prospères. La stratégie verticale, celle de la délocalisation vers les pays pauvres afin de réduire le coût de main-d'œuvre, il faut bien le dire, on le sait après cette étude, maintenant il n'y a plus de doute, eh bien c'est une stratégie de second choix, de second best, comme disent les économistes. Alors, imaginez que la croissance économique ordinaire, fût-elle dopée par les investissements directs et les nouvelles technologies, viendra à bout la pauvreté massive de ces pays, eh bien, je crois que c'est une utopie. Du moins, si l'on raisonne dans des délais raisonnables. Deuxième raison, qui nous incite à ne pas être trop optimistes, rien ne prouve que la croissance économique se poursuivra à un rythme soutenu. La mode aujourd'hui est de considérer les États-Unis comme un modèle. Mais nous perdons de vue trois composantes essentielles de la croissance américaine. Première composante, eh bien, cette croissance a été intensive en travail, mais en quelque sorte par défaut, parce que la productivité du travail a augmenté beaucoup moins vite qu'en Europe. Elle a même très peu augmenté aux États-Unis ces 20 dernières années. Deuxième composante, le déficit extérieur énorme, probablement 3,5% du PIB en 1999, aurait dû pour tout autre pays se traduire par un ajustement, donc par une récession sévère. Mais des entrées particulièrement abondantes de capitaux ont jusqu'alors évité la récession. En dernier lieu, troisième composante, la croissance boursière quelque peu débridée a contribué à stimuler la consommation des ménages. Autant dire que la croissance américaine est extrêmement vulnérable. Qu'elle fléchisse pour une raison ou une autre, et la pauvreté, qui a incontestablement diminué ces dernières années, eh bien elle va exploser. Ce qui est vrai des États-Unis et de l'Europe, bien qu'avec des différences notables. Troisième raison pour laquelle donc n'avons pas lieu d'être très optimistes, rien ne prouve que la mondialisation officielle va pouvoir tenir ses promesses. Rien ne prouve même qu'elle ne va pas sombrer. Alors cette affirmation est si peu dans l'air du temps qu'elle mérite quand même une attention particulière. Supposons que la corruption et la criminalité continuent leur course inquiétante. Ce qui, après tout, n'a rien d'improbable. Eh bien, ce sont les assises mêmes du marché officiel qui vont être ébranlées. Quelles sont ces assises? Quelle est cette assise fondamentale de l'économie ordinaire? Eh bien, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est la confiance. Mais si les économies criminelles continuent de proliférer, la confiance, qui est la clé de voûte donc du système, risque de disparaître. On pourrait alors assister à une sorte de repliement qui ne serait pas sans analogie avec la situation qui prévalait dans l'Europe médiévale. En effet, si l'économie officielle est gangrenée par la mafia, cette dernière n'a aucun intérêt à faire prévaloir des règles universelles. Par définition, la mafia obéit à des règles claniques. Les affiliés à la mafia n'ont qu'une règle, au fond, le devoir de vassalité au chef. Nous pourrions donc bien nous acheminer vers un monde encore plus fragmenté et violent. D'innombrables principautés mafieuses seraient en guerre larvée pour la conquête du marché, de la rapine et du crime. Alors subsisteraient, bien sûr, des États légaux. Ces derniers, pour contenir les attaques mafieuses, finiraient par recruter des mercenaires, mais dont les mœurs condottières n'auraient peut-être rien envié à celles des parrains de la mafia. Conclusion, eh bien, une question. La question cruciale est de savoir comment prévenir l'apparition d'un monde encore plus inégal, plus fragmenté et plus violent. On ne peut qu'esquisser quelques pistes de réflexion et d'action. Ces pistes seront l'objet de ma conclusion. La première piste concerne la lutte contre la criminalité. La seconde, l'exigence d'un minimum juridique et éthique commun. La troisième, l'exigence de lutte contre la pauvreté au nord et au sud. La quatrième, l'exigence de régulation de la mondialisation officielle. Autrement dit, elle porte sur la question suivante, comment domestiquer, si c'est possible, le capitalisme à une échelle mondiale. La première piste, eh bien, elle repose sur une meilleure coordination des États dans la lutte contre la criminalité. C'est une évidence. L'urgence est d'abord de mettre un terme aux paradis fiscaux. Il reste que la lutte contre la criminalité ne va pas cependant sans un risque considérable, celui d'une pression policière accrue et donc d'une limitation des libertés qu'on voit déjà poindre en Europe d'une certaine façon, mais aussi aux États-Unis, surtout aux États-Unis. Aux États-Unis, la lutte contre la délinquance, selon le principe zéro tolérance, n'est pas sans succès. Elle a même été un succès d'une certaine façon. Tous les indices de criminalité plongent depuis 7 ans. Tout semble se passer cependant comme si la violence publique se substituait dans ce pays à la violence privée. Presque 2 millions d'Américains sont sous les verrous, dans des conditions parfois moyenâgeuses. On le voit dans des émissions récentes, c'est très clair. Nombre d'exécutions ressemblent de plus en plus à ce qu'il faut bien appeler des assassinats. Les couloirs de la mort qui laissent la plupart des Américains, hélas, indifférents, rappellent d'autres lieux de sinistre mémoire. Quoi qu'il en soit, la deuxième piste part alors d'un constat de bon sens. La répression a des limites. Certes, la règle doit être respectée, mais on se pose rarement la question de savoir pourquoi la règle a été transgressée. Pourquoi une règle de droit, d'ailleurs, nous obligerait absolument ? La sanction, sans doute, mais on ne peut mettre un gendarme derrière chacun d'entre nous. En outre, rien ne prouve que le gendarme ne sera pas soudoyé. Eh oui ! Au fond, je crois que nous devrions nous le dire, la règle de droit n'a que peu d'effet si elle n'est pas légitimée par une éthique partagée par le plus grand nombre. Non plus seulement par quelques pays, mais par l'ensemble du monde. Douglas North, prix Nobel d'économie, nous rappelle une autre évidence. Si les joueurs n'ont pas de règles morales, la règle de droit est transgressée de façon quasi permanente. Mais dès lors, les coûts de la pénalisation deviennent insupportables. Est-ce qu'une économie peut fonctionner avec des coûts de transaction, c'est le mot qu'utilise Douglas North, avec des coûts de pénalisation, des coûts de transaction aussi élevés? Ben, la conséquence, je crois, elle est claire, c'est que les droits et les devoirs de l'homme devraient constituer le fondement du droit des gens, du droit et des obligations des gens, mais aussi quelque chose qu'Edgar Morin appelle le patriotisme terrestre. En tout état de cause, quelle est la légitimité? Il faut poser une autre question, qui est au moins aussi importante. Quelle est la légitimité du droit et de la morale si nous n'actualisons pas l'idée de justice latente dans les droits humains et si nous ne leur donnons pas un contenu réel? Autrement dit, un contenu économique et politique. Le juste a un sens symbolique dans toutes les sociétés, mais ce sens a aussi une valeur en termes de droit, comme l'on dit, de droit créance. En d'autres termes, la lutte contre la pauvreté est incontournable au sud et au nord. C'est la troisième piste. La priorité des priorités, c'est d'abord d'établir un véritable contrat de solidarité avec les pays pauvres, qui devrait comprendre 2 volets complémentaires. La mise à la disposition des populations pauvres de biens et de services de base à coût réduit. Deuxième volet, le renforcement de leur marché intérieur, et bien justement, par un appui intelligent à ces fameuses économies populaires, qui sont les économies réelles de ces pays, mais c'est ce qu'on ne veut pas voir. Eh bien, je crois que ce contrat de solidarité ne peut résulter que d'une véritable révolution copernicienne dans la perception que nous avons de ces pays, de leurs économies et de leurs sociétés. Nous incriminons la mondialisation, mais à certains égards, nous avons la mondialisation que nous méritons. Certes, il est aussi absurde de contester la mondialisation que de se plaindre des ondes hertziennes ou des marées. Mais si nous laissons le marché dicter sa loi, nous n'aurons ni la loi ni le marché, mais un monde mafieux et invivable. Des contre-pouvoirs sont donc nécessaires. Et ce sont ces contre-pouvoirs qui réguleront socialement la mondialisation. Les États, évidemment, eux aussi ont un rôle à jouer. Voilà la quatrième piste. Le premier contre-pouvoir est bien connu, il a émergé à la conférence de Rio et n'a depuis cessé de se renforcer. C'est la fameuse internationale civile, comme on dit aujourd'hui, dont les mouvements associatifs du Nord et du Sud sont les représentants. Les institutions internationales et le capitalisme doivent compter avec eux, et je crois que c'est bien ainsi. Mais deux autres contre-pouvoirs sont encore en germe et il faut qu'ils se développent. Le premier réside dans les syndicats, dont la coordination devient plus que jamais nécessaire. À la multinationalisation des firmes doit répondre la multinationalisation des syndicats. Il faut bien dire que nous en sommes encore loin. Le deuxième contre-pouvoir, c'est celui des consommateurs. Après tout, les consommateurs votent avec leur carte de crédit et leur carnet de chèques. Eh bien, qu'ils boycottent donc les firmes qui ne jouent pas correctement le jeu social ou économique. Les consommateurs sont tout aussi bien des épargnants. Eh bien, qu'ils se décident à investir par le moyen de banques mutualistes ou autres dans des firmes qui ont des comportements éthiques. Est-ce que c'est vraiment si irréaliste que ça? Eh bien, la réponse nous a été donnée il y a fort longtemps par la Boétie. On en parle beaucoup aujourd'hui, de ce la Boétie, dans son discours, son fameux discours sur la servitude volontaire. Et qu'est-ce qu'il nous dit, la Boétie? Si nous ployons sous la dictature, c'est parce que nous le voulons bien. Si nous ployons sous la dictature des marchés, eh bien, c'est parce que nous le voulons bien. Chacune des pistes suggérées est encombrée d'obstacles. L'internationalisation du droit est encore embryonnaire, on est encore plus éloigné d'une éthique commune et d'un patriotisme terrestre. La régulation de l'économie mondiale et de l'environnement n'en est encore qu'à ce qu'on pourrait qualifier de balbutiement. Ça avance, mais pas très vite. Et pourtant, la marque Nike, par exemple, a été boycottée parce qu'une de ses filiales exploitait des enfants. Depuis l'épisode de l'Erika, il y a des firmes qui commencent à parler de chartes de bonne conduite. Sous la pression du mouvement associatif, et ça vous le savez bien, ça court les rues et les médias, l'AMI n'a pas été adoptée. Citelle a quasiment capoté. Dans un autre ordre d'idées, le tribunal pénal international vient de voir le jour et ce n'était pas si plausible que ça. Alors, tous ces petits pas nous semblent dérisoires, bien que chacun demande. Et on le sait bien, quand on est sur le terrain, chacun demande une somme presque infinie d'énergie. Et pourtant, si nous regardons bien, nous revenons de loin, finalement. Le vote des femmes est à quelques décennies, à quelques encablures, au moins en France. La prise de conscience des problèmes environnementaux, à peine un quart de siècle. Les massacres, un peu plus d'un quart de siècle. Les massacres les plus incroyables de l'histoire ne sont pas non plus très loin. À peine un peu plus d'un demi-siècle. Un demi-siècle, c'est rien dans l'histoire. Alors prenons un petit peu de recul. L'histoire de l'humanité ne représente finalement qu'un epsilon dans l'histoire de notre planète. Nous sommes encore dans l'enfance. Et comme les enfants que nous décrivait Jean Piaget, nous avons bien du mal à faire la distinction entre le réel et le possible. L'âge adulte de l'humanité commencera peut-être lorsque le réel, celui que nous connaissons aujourd'hui, n'apparaîtra plus comme le seul monde possible. Alors, on aimerait pouvoir citer le beau mot de Rainer Maria Rilke, sans arrière-pensée, lui qui disait « Ne voyez-vous pas que ce qui arrive est toujours un commencement. Il est tant de beauté dans tout ce qui commence. » Le monde qui vient, planétarisé, peut réaliser enfin l'idée d'humanité. Dans l'humanité, il y a humus, et dans humus, il y a la racine indo-européenne kem. Kem, ça veut dire terre. Mais l'humanité, depuis le XVIe ou XVIIe siècle, a pris un autre sens. C'est aussi celui de bonté. Eh bien, nous allons devoir nous habituer à cette idée triviale, mais tout de même exigeante. Nous appartenons à la terre, et voilà que nous allons devoir apprendre à vivre ensemble. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup.
Fuge dans les temps.
Tout à fait. Bravo. Et maintenant, place au débat. Alors, on voit à droite, monsieur à droite. Voilà, on voit mieux. Après madame, au milieu. Alors, les appareils, voilà.
Oui, j'étais un peu étonné, je ne sais pas à qui s'adresse la question, ou à M. Anglade, ou aux organisateurs, qu'on ait écrit le mot criminel, sans guillemets. À moins, parce que l'économie informelle, c'est comme il l'a dit, c'est l'économie de pauvres, c'est l'antidote de crève-faim, de laisser pour compte. À moins de confondre les rues de Dakar, de Douala ou de Brazzaville avec le trafic de drogue qui est réellement criminel. À mon avis, l'économie informelle dans ces pays-là qui permettent de ne pas crever et qui n'est là que parce que l'économie officielle est défaillante, zéro degré vraiment d'économie. Deuxième chose, professeur, vous avez parlé tout à l'heure des PASS, programmes d'ajustement structurel. À votre avis, pendant 20 ans ou 25 ans qu'on les a appliqués, les pays à qui on les a appliqués se sont dégradés de plus. Est-ce que c'était, comme pensent certains observateurs, un complot pour enfoncer définitivement ces pays-là, ou c'était tout simplement vraiment des erreurs de la part des fonctionnaires de FMI? Dans ce cas, si vous optez pour la deuxième hypothèse, c'est très grave. Ça veut dire qu'on est vraiment dirigé économiquement par des crétins. Merci. Dernière question.
Merci.
Dernière question.
Laissez la parole aux autres.
Pourquoi vous êtes resté 6 mois à Dakar, pas un an ou 18 mois ou 3 mois dans les quartiers à Dakar?
Non. Il est où d'ailleurs ce garçon?
Il est là.
Oui, 20 ans, pas 6 mois.
Depuis les années 80.
Et j'y vis encore régulièrement, voilà. Oui, alors, la question, alors est-ce que c'est un complot? Moi, je me méfie de la théorie du complot. Alors, évidemment, vous me direz, donc le choix qui nous reste, c'est de dire que ce sont des crétins. Alors, ce qui est grave, c'est que non, ils ne sont pas crétins, ils ne sont pas forcément crétins. On voit des hommes très intelligents qui sont obnubilés. Écoutez, il faut comprendre la chose suivante. Tous ces gens qui viennent du FMI de la Banque mondiale, moi je les ai côtoyés souvent, parfois en adversaire, des gens de la Banque mondiale, en concertation. Hein. Tous ces gens-là ont fait des études dans des universités américaines où on ne jure que par un seul modèle. Et finalement, c'est tellement ancré dans leurs esprits qu'ils ont du mal à s'en dégager. C'est-à-dire qu'ils croient que dans la réalité, ça fonctionne comme dans les textbooks qu'ils ont eus en économie. Voilà. Et on les a entretenus dans ce modèle-là. Alors maintenant, il s'est passé la chose suivante, c'est que on a juré que finalement, la vraie croissance saine, enfin on est parti du principe qui est celui des textbooks, que la croissance saine, c'est celle qui est tirée par les exportations. Donc on a rivé ces pays-là sur quelques produits, et comme ils se sont rivés sur quelques produits avec d'ailleurs plus ou moins de bonheur, ben, il s'est passé la chose suivante, c'est que le développement n'a pas pu se faire, parce que le développement, c'est justement la diversification des produits, de l'économie, hein, et c'est en même temps l'intégration, c'est-à-dire la relation entre ces différentes filières ou secteurs. Donc, comme ils se sont rivés là-dessus, voilà, et je crois que tout ça vient quand même de cette idée, j'en ai parlé tout à l'heure, on l'a complètement abandonné pendant 20 ans, puis 25 ans, on ne parle plus de développement. Vous avez remarqué qu'on ne parle plus de développement, on ne parle plus que de croissance. Ben, je suis désolé, le développement, ça existe. Et ce qu'on appelle aujourd'hui, ce que les théoriciens considèrent comme les nouvelles théories de la croissance, en fait, pour moi, sont des théories du développement. Parce qu'elles sont structurelles. Voilà.
Merci beaucoup.
Alors, ces ajustements n'étaient pas du tout structurels, d'ailleurs, en passant. Hein, bon, voilà.
Monsieur, à gauche, en haut.
Je vous remercie d'abord de cette intervention. Et je voudrais savoir, par rapport à quelqu'un qui est intervenu à cette même tribune il y a vraiment très peu de temps, qui nous a affirmé que la délocalisation dont vous avez parlé avait sorti de l'extrême pauvreté un certain nombre de pays, notamment du sud-est asiatique, chose qui est probable. Je voudrais connaître votre point de vue là-dessus et surtout si le consommateur dont vous disiez qu'il était justement avec sa carte de crédit, l'électeur, est pris un peu tiraillé entre ces deux tensions. Est-ce qu'on favorise en achetant Nike, par exemple, pour ne pas le citer, les familles qui travaillent effectivement à 5 centimes de la journée dans les pays où ils sont installés, ou est-ce qu'on doit sanctionner et éviter ce genre d'exploitation outrancière, à mon sens?
Oui, alors évidemment, il y a plusieurs questions dans votre question, comme d'habitude, ce qui fait que le pauvre conférencier est tout à fait tourneboulé, il ne sait plus où d'être.
Non, je vais essayer de vous répondre. C'est une question, alors il faut bien comprendre, c'est une question très compliquée, je veux dire qu'on pourrait passer là-dessus des heures. Je dirais même qu'à la limite, on devrait passer des jours à travailler, des gens compétents devraient réfléchir là-dessus. Alors ça vient, mais pas, c'est pas suffisant. Alors moi, je crois qu'on peut dire la chose suivante, pour faire bref, hein, pour pas monopoliser trop longtemps la parole avec ma réponse, c'est que d'abord, dans un premier temps, c'est vrai que la délocalisation, quand elle peut se faire dans des conditions à peu près convenables, elle peut donner du travail quand même aux gens. Ça, c'est vrai. Hein. Je crois que c'est l'économiste américaine, anglaise, je veux dire, Miss Robinson, qui disait « Quel bonheur, parfois, de pouvoir se faire exploiter ». Elle était de tendance néo-marxiste, pour qu'elle le dise, c'est que ça avait quand même un sens. Je veux dire, c'est quand même bien d'avoir du travail. Il y a des centaines de milliers de personnes qui accepteraient de se faire « exploiter », entre guillemets, mais qui ne peuvent pas, parce que ce n'est pas le cas, parce qu'il n'y a pas de délocalisation. Cela dit, ces délocalisations, c'est le deuxième point, eh bien, je crois que... Voilà, alors, l'idée générale, ça qu'il faut ramener ça. Là, hein. Pour le FMI, la Banque mondiale, il faut bien comprendre que la croissance... sera tiré et par les exportations, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure pour faire bref, mais aussi par les investissements directs, donc par ces fameuses délocalisations. Bon, mais on voit bien que ces délocalisations, par exemple dans les pays africains, est extrêmement faible. Les investissements, alors pour vous donner un ordre de grandeur, les investissements directs, c'est-à-dire qui sont des firmes effectuées par des firmes occidentales en Afrique subsaharienne, bien, ces investissements représentent 6% de la totalité des investissements directs qui sont faits à partir des pays occidentaux, enfin des pays industrialisés, vers les pays du tiers-monde. Donc de ces investissements qui vont vers les pays du tiers-monde, il n'y en a que 6% qui vont vers l'Afrique. Alors si vous croyez que c'est avec ça qu'on va développer l'Afrique, il ne faut pas rêver. Alors, j'ajouterai la chose suivante, c'est que des pays qui ont très bien réussi, je pense par exemple à la Corée du Sud, ça peut se discuter, il y a eu... Bon, enfin, c'est un développement quand même relativement égalitaire. Le revenu par tête est élevé. Bon, en dépit de la crise asiatique, là, ils sont en train de repartir. Alors, il faut quand même savoir que, pour une grande part, l'industrie a été le fait des Coréens eux-mêmes. Il y a eu des prises de participation. Enfin, à une époque, on a laissé entendre que la grande partie de l'industrie de Corée coréenne du Sud était à capitaux étrangers. Mais ce n'est pas vrai du tout. C'est une erreur. Il y a eu des capitaux étrangers, c'est vrai, mais relativement modestes. Donc on ne peut pas dire que le développement de la Corée du Sud se soit fait avec des investissements étrangers. C'est faux. Voilà, alors, pour l'instant, je vais en rester là.
Merci beaucoup.
Alors, je voudrais quand même dire, si, un mot, puisqu'on parle des économies africaines, peut-être que quelqu'un va poser la question. Alors, on me dirait, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut poser la question.
Oui, moi.
Vous savez, ça me rappelle un peu un certain général. Je crois que quelqu'un posait une question. Voilà. Oui, madame.
Attends. Merci beaucoup, monsieur, de nous apporter un discours un peu différent du discours ambiant. Hein, merci beaucoup. Moi, je voulais vous demander ce que vous pensiez du microcrédit. Est-ce qu'on peut faire confiance dans cette solution-là? Et puis, qu'est-ce que vous pensez aussi de la responsabilité des États? Vous parlez de l'Afrique, la responsabilité des États africains et puis bien entendu les nôtres. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Dans effectivement l'absence de développement, les politiques désastreuses qui ont été menées, même pas menées dans ces pays-là. Je ne parlerai même pas de l'Amérique latine, enfin bon.
Bon, ben, je crois qu'en sortant, on va aller dans un café tous les deux, puis pendant 4-5 heures, on va parler de tout ça. Non, je plaisante, mais enfin, ouais, c'est des questions énormes. Le rôle de l'État dans le développement. Alors d'abord, le microcrédit, c'est évident que... quand il n'y a rien, quand il n'y a rien d'autre, c'est un minimum essentiel. Pourquoi ? Parce qu'on ne voit pas de nouvelles activités de production, aussi modestes qu'elles soient, démarrer sans un minimum de fonds. Alors, il peut y avoir l'épargne, c'est vrai, et pour des gens qui sont très pauvres, c'est quand même difficile, pas impossible. Hein. Entre parenthèses, dire que l'épargne est impossible pour des gens très pauvres, ça ne serait pas vrai. Quand on regarde ce qui s'est passé, notamment en Afrique subsaharienne, c'est quand même extraordinaire. Il faut voir que...
une grande partie des populations, enfin une partie non négligeable des populations des campagnes, depuis les années 70, où il y a eu cette grande crise des années 70, eh bien, ils sont venus en ville. Voilà des gens qui ont été capables d'épargner. Ce n'est pas l'État qui leur a permis de se loger, hein, pour 99,99% d'entre eux. Ils ont réussi à se loger et à jeter les bases de ces économies populaires dont on parlait tout à l'heure, qui ne sont peut-être pas d'une efficacité redoutable, parce que si elles étaient parfaitement efficaces, ces gens-là seraient plus pauvres. Enfin, il n'empêche qu'ils ont été capables quand même de se créer des économies de survie, et en épargnant, malgré tout. Donc, là, c'est quand même, hein, il ne faut pas négliger la capacité d'épargne même des plus pauvres. Cela dit, eh bien, le crédit informel est certainement un adjuvant important. Mais alors, ce qui serait encore plus important, c'est qu'on arrive à détecter des filières qui soient particulièrement porteuses dans ces économies populaires, et puis, parce que finalement, le risque, c'est l'éparpillement. Alors, c'est vrai qu'il y a des femmes, un tas de femmes dans le monde, notamment en Asie, qui ont réussi, grâce à ces fameux crédits informels, à démarrer des petites activités. Bon, c'est bien, et on voit qu'on peut améliorer quand même la situation de beaucoup de gens. Et déjà, ça, c'est très important. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire un pas de plus ? Eh bien, ce pas de plus, ça consisterait à mettre le paquet sur ces économies populaires, à se dire que ce sont les vraies économies. Alors, un paquet en crédit, en petit équipement aussi, mais en formation, informel et informel, formel et informel. Alors, mais si on ne veut pas s'égarer, parce que bon, ça représente, écoutez, pour vous donner une idée, il doit y avoir 500 millions, la Banque mondiale estime qu'il doit y avoir 500 millions de micro-entreprises dans le monde. C'est un paquet, alors on ne va pas aller derrière chacune de ces micro-entreprises pour essayer de faire du crédit, démarrer quelque chose. C'est une tâche incommensurable, les travaux d'Hercule, donc hein, on ne peut pas y arriver. Alors ce qu'il faudrait faire, ça serait détecter, moi je dis ça depuis, je demande ça depuis 15 ans, et ça demande quand même des fonds, des moyens, alors on ne les a pas. Il faudrait essayer de connaître le dessin des filières de ces économies. Il ne s'agit pas de se lancer dans des opérations de détail trop compliquées, mais il faudrait avoir, ce que les économistes, d'autres d'ailleurs, appelaient tout simplement un graphe des connexions de ces économies. Et on voit bien que certaines filières sont plus porteuses que d'autres, en ce sens qu'elles ont des effets d'entraînement plus importants, hein, sur, par exemple, tel ou tel secteur, en termes d'emploi, en termes de revenus. Ben, il faudrait quand même mettre le paquet, justement, sur ces filières-là. Voilà. Alors, aussi, c'est un travail important, mais on n'arrive pas à le faire. On est encore au coup par coup. Vous voyez, je vous dis, on est encore au coup par coup. Et il faut sortir du coup par coup, maintenant, il faut travailler à grande échelle. Cela dit, il faut continuer à faire ce petit crédit qui permet quand même d'améliorer la situation, notamment des femmes. Je disais tout à l'heure que ce sont elles qui portent le tiers-monde sur les épaules, et notamment le continent africain, mais c'est vrai. On le voit tous les jours. Merci. Enfin, merci de votre... Oui, merci de votre question, qui est vraiment très importante.
Madame à droite.
Je voudrais vous demander si l'explosion démographique ou une croissance démographique n'a pas été aussi à l'origine du basculement de certains États dans la pauvreté.
Vous levez, s'il vous plaît.
Alors, bon, moi, j'aurais tendance à dire la chose suivante, c'est qu'une croissance... Bon, d'abord, il faut savoir que dans le cas de l'Afrique subsaharienne, le taux de croissance démographique est de 3% l'an. Alors, on n'a jamais connu des taux pareils dans l'histoire. Mais enfin, il faut savoir que c'est un continent qui a été quand même saigné à blanc. Il a été saigné à blanc. Sans jeu de mots. Il a été saigné, bah oui, saigné. Bon, là, on ne va pas dire à blanc ou par des blancs. Mais enfin, tout le monde était un peu de la partie, hein. Il faut savoir ça. Il ne faut pas avoir une vision quand même trop unitaire, trop myope du problème. Mais bon. Donc, il y a un effet de rattrapage. Alors, ça se traduit comment ? Dans un premier temps, ça veut dire que, si on raisonne en termes d'économie un peu traditionnelle, un peu conventionnelle, ben, ça veut dire que les charges publiques deviennent beaucoup plus lourdes, il faut construire des écoles, il faut construire des hôpitaux nouveaux, etc. Pour des pays déjà pauvres, la charge était très dure. Mais alors, la contrepartie, c'est que quand vous avez une croissance démographique rapide, là, c'est la plus forte du monde, vous avez aussi un rajeunissement de la population. C'est-à-dire que, par exemple, en Afrique subsaharienne, je pense que c'est le cas-là, eh bien, la moitié de la population, en gros, hein, a moins de 17 ans. Mais ça veut dire qu'il y a une capacité de transformation, de changement considérable. Ça, c'est la contrepartie. Alors, si on ne fait rien, ben, c'est un peu comme la monnaie. Si vous avez de la monnaie, mais qu'on n'a pas de moyens de création, de nouveaux moyens de production, ben, ça va faire de l'inflation. Ben, là, si vous avez de la population qui croît, mais sans qu'on lui donne les moyens de s'employer et sans qu'on lui donne les moyens de mettre à profit sa capacité de changement, évidemment, ça ne sera peut-être pas l'inflation, mais ce sera l'explosion qu'on commence à voir déjà dans un certain nombre de pays. Voilà. Donc, il n'est peut-être pas trop tard, mais il ne faut pas perdre de temps. Alors, pas perdre de temps, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il faut accepter de voir, j'ai parlé tout à l'heure dans ma petite conférence, de révolution copernicienne. Vous comprenez, on a faim pendant 20 ans de considérer, et ça, les gens de la Banque mondiale et du FMI portent une lourde responsabilité, ils ont fait comme si toutes les économies étaient les mêmes. Comme si une économie pauvre, ça fonctionnait comme une économie riche, comme une économie déjà développée. Ben, ce n'est pas vrai pour toutes les raisons que j'ai indiquées. Il faut accepter de voir que le plus gros de l'économie, au moins en termes de population, c'est 80% de la population dans certains pays qui est utilisée dans l'économie populaire. Ben, si on ne met pas le paquet sur ces économies-là, il ne va pas se passer grand-chose. Je crois qu'il faudrait finalement mettre le paquet, c'est un peu vulgaire, mais enfin, il faudrait attaquer sur deux fronts. Le premier front, c'est celui de ces économies populaires, donc du côté de la production, d'une certaine façon. Et il y a un autre aspect qui est très important, un deuxième front, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens ne sont pas pauvres de rien. Vous êtes pauvres d'abord fondamentalement parce que vous n'avez pas accès à quoi ? À l'éducation, à l'eau potable, à l'énergie, à la communication, au transport, à l'école. Et c'est ça qu'il faut faire. Alors, il existe des modes de production et de diffusion de biens et de services de base à coût plus faible, on a de bonnes expériences dans le monde, mais on ne sait pas les mettre à profit et surtout on n'a pas la volonté de les généraliser. Et c'est ça qu'il faut faire. Alors de cette façon, eh bien, les pauvres vivront un peu mieux et bon, en même temps, on appuiera les économies populaires, il se passera des synergies. Et c'est ça le développement. Et les gens vivront d'abord un peu mieux. Voilà ce qui est fondamental.
Alors, deux dernières questions. Monsieur à gauche et après madame au milieu.
Bonsoir et merci de votre analyse tout à fait lucide quand vous affirmez
Monsieur,
qu'une grande partie de la pauvreté...
Pourriez-vous vous lever, s'il vous plaît, à gauche?
Non, mais ça va peut-être l'ennuyer. Non, c'était pour qu'on vous voit parce que finalement, quand même, la salle est assez grande et quand quelqu'un parle, on ne voit pas d'où ça vient. Pardon, excusez-moi.
Oui, bonsoir et merci de votre analyse tout à fait lucide quand vous affirmez qu'une grande partie de la planète continue de vivre dans la pauvreté.
Ah oui.
Vous avez ajouté en substance que les pays pauvres sont victimes de leur histoire. Cette histoire, comme vous le savez, leur a été imposée par la force, parfois par les armes. La colonisation a bloqué leur développement et empêché la formation même de leurs nations respectives. L'occupant a inventé des ethnies et provoqué des antagonismes religieux, idéologiques, voire culturels, qui ont débouché pour certains d'entre eux sur des conflits sanglants. De nos jours, leur indépendance reste formelle et les anciens tuteurs coloniaux continuent de tirer les ficelles, n'hésitant pas à l'occasion de s'appuyer sur des pantins ou des dictateurs locaux pour poursuivre le pillage de leurs ressources. Comment faire, selon vous, pour réduire ces inégalités, changer ces situations dramatiques au plan humain en ce troisième millénaire? Je vous remercie.
Encore, c'est une question, on pourrait y passer le réveillon. Hein. Bon. Mais non, mais c'est une très belle question, vous avez raison. Alors maintenant, je voudrais dire quand même la chose suivante, c'est que pour ce qui concerne le blocage d'un certain nombre de populations, vous savez ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, je suis tout à fait d'accord avec ça, je pense que toutes les populations du monde avaient une potentialité de développement de quelque chose qui serait une modernité, pas forcément la modernité, quelque chose qui serait la modernité occidentale, mais une modernité. Et beaucoup d'entre eux n'ont pas pu le faire. Hein. D'ailleurs, il est tout à fait remarquable de constater que, par exemple, deux pays qui n'ont pas été colonisés. Moi, je trouve ça tout à fait étonnant. La Chine, par exemple, et le Japon. La Chine a été perturbée par les Occidentaux, mais pas vraiment colonisée. Le Japon n'a jamais été colonisé. Il n'a jamais été vraiment colonisé. Bon, il a été sous tutelle américaine pendant un temps, mais ce n'est pas vraiment une colonisation, c'est autre chose. Ben, il faut constater quand même que le Japon est en ce moment la deuxième puissance économique du monde, en dépit de la récession qu'il frappe, il est toujours là. Hein. Bon. Quant à la Chine, eh bien, écoutez, tout laisse penser qu'elle va devenir l'une des grandes puissances économiques du monde. Elle est en train de devenir. En revanche, par exemple, la Thaïlande, La Thaïlande non plus n'a jamais d'ailleurs été colonisée. Ben, elle se porte pas trop mal. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Hein. Mais en revanche, les Philippines, qui ont connu le développement, la croissance la plus tardive en Asie, eh bien, sont restées pendant 4 siècles sous domination espagnole, et qui plus est, sous la tutelle d'un clergé peu clairvoyant. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, c'est peut-être pas un hasard. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que, je suis d'accord avec vous. Alors maintenant, comment on peut faire ? Bien, écoutez, on pourrait dire, on va organiser des expéditions, les dictateurs, on va les foutre à la porte, etc. Je crois qu'il ne faut pas rêver. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est passer des contrats de solidarité avec un certain nombre de pays, de telle façon que le changement initié, qui serait d'abord économique, à mon avis, travail sur les économies populaires, diffusion de biens de services à faible coût, eh bien, il faudrait que ces éléments-là incitent au changement, donc d'abord changement économique, qui entraîne lui-même un changement social et un changement politique. Au fond, ça changera le jour où chaque personne, chaque citoyen est conscient de la situation. C'est dans la mesure où les gens qui sont conscients de leurs forces peuvent exercer une pression suffisante sur les pouvoirs en place. Au fond, les États font leur boulot. Et ils ne font leur boulot que quand ils sont contraints de le faire. Alors, il y a parfois des dictateurs éclairés. Ah oui, ça s'est vu dans l'histoire. Mais enfin, ça, ce n'est pas forcément le plus fréquent. Les États font leur boulot quand ils sont contraints de le faire. Il faut partir de là. Et quand vous aurez des gens plus éduqués, qui sont dans une dynamique sociale et économique, ils rentreront dans quelque chose qu'on peut qualifier de société politique. À savoir qu'ils sont conscients de leurs intérêts, ça c'est déjà très important, que les gens déjà prennent conscience de leurs intérêts. Qu'ils arrêtent par exemple de voter pour un tonton parce que c'est le tonton, mais qu'ils votent pour le type qui sera capable de leur faire une piste ou de leur faire un dispensaire. Bon, le jour où les gens déjà sont conscients de leurs intérêts, c'est très bien. Parce que le jour où ils sont conscients de leurs intérêts, ils vont continuer dans cette logique. Et au bout de la logique de l'intérêt des familles, des intérêts privés, ben, il y a quelque chose qui est un dénominateur commun, qu'on commence à percevoir, qui est l'intérêt commun. Et puis là-bas, il y a l'État. Ben voilà, et les gens prennent conscience d'un intérêt commun et ils disent aux États, bon, ben, il faut que ça change. Quand on verra 10 000, par exemple, agriculteurs africains défiler dans les rues d'une capitale africaine, demandant un nouveau programme, agricole, nouvelle politique agricole, moi je dirais, ben là vraiment c'est en train de changer. Mais c'est pas loin hein, dans certains cas, on n'en est pas loin. Alors tout ça on le voit pas très bien parce que c'est souterrain, ça chemine, mais ça vient. Voilà, alors quant aux États, et là je réponds en même temps à madame là, qui me posait la question tout à l'heure, qu'est-ce que vous voulez, évidemment, ce sont des fictions juridiques quand même admirables. C'est très utile l'État, c'est très utile. Pourquoi ? Ben parce qu'on a un développement qui doit venir de la base. Mais c'est comme une sorte de mécanisme où il y a un bas et où il y a un haut. Ben, il faut faire prendre la sauce. Ben, les États, leur boulot, c'est d'essayer de faire prendre la sauce. Alors voilà, c'est pour ça qu'ils sont importants. Alors, pour qu'ils fassent prendre la sauce, ben, il faut aussi qu'il y ait des pressions qui s'exercent sur eux. Celle des populations, mais celle aussi des bailleurs de fonds. Alors à une époque, moi je trouvais que c'était de l'ingérence. Ben, je dis maintenant, non, c'est plus de l'ingérence du tout. Par exemple, inciter un certain nombre d'États à des comportements plus démocratiques. Moi, à une époque, ça me choquait. Maintenant, ça ne me choque plus. Ben, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que même s'il y a des libertés purement formelles, ce sont quand même des libertés d'expression. Et les pauvres, ils peuvent en profiter de ces libertés d'expression. C'est comme ça qu'ils peuvent finalement établir un minimum de communication sociale. Et ça facilite justement la communication globale et le changement.
Merci beaucoup. Deux très rapides questions. Madame au milieu, après monsieur à droite en haut.
Je voulais revenir sur le problème de l'économie criminelle. J'avoue que je n'étais pas tout à fait totalement satisfaite de vos explications, je me permets de le dire. Vous avez mis beaucoup en avant l'explication économique. Ce qui m'a un peu gênée, c'est...
Ah non.
Bah, c'est ce que j'ai compris. Non. En tout cas, moi, je n'ai pas vu trop l'articulation avec le politique et le juridique. Donc, je vais prendre un exemple très précis. C'est le champ de l'économie illicite de la drogue, par exemple. Bon, on sait très bien quand même que l'économie illicite de la drogue a été causée essentiellement par les législations prohibitives qui ont été mises en place au début du XXe siècle par les USA et après la plupart des pays européens. Donc, quand vous avez dit que l'économie criminelle puisse sa source dans la pauvreté, moi, ça m'a un peu gênée, quand même.
Je n'ai pas dit ça, madame.
Ah, bah, écoutez, c'est...
Non, j'ai dit
J'ai bien... Alors, excusez-moi, j'ai quand même... non, je ne veux pas me montrer vindicatif.
Non, mais je termine mon intervention,
oui,
peut-être.
Oui, allez-y, oui, bon, bien sûr. Pardon,
voilà. Non, mais ce qui me gêne un peu, c'est que là, par exemple, pour le cas précis de l'économie illicite de la drogue, comment expliquez-vous, justement, la responsabilité politique des États et la responsabilité également juridique? Or, on sait très bien que ce n'est pas simplement les mafias qui profitent de l'économie informelle de la drogue, ce sont aussi les États politiques, y compris l'État français. Donc, oui, j'aimerais que vous répondiez à cette question-là. Voilà. Et en particulier, peut-être une question plus précise, à savoir, est-ce que la libéralisation des drogues pourrait changer quelque chose à cette économie criminelle?
Voilà. Dure en tout cas la première question pour laisser la parole.
Oui, ben là encore, hein, on va aller passer 3-4 heures ensemble dans un... Non, alors écoutez, non, je vous réponds. Je vais essayer de vous répondre brièvement. Mais attention, excusez-moi, je me suis sans doute très mal fait comprendre tout à l'heure. Mais à mon avis, vous savez, en une heure, raconter toutes ces choses-là, c'est pas simple. Hein. Bon, mais quoi qu'il en soit, pour ce qui concerne justement l'économie criminelle ou les économies criminelles, j'ai essayé quand même d'insister, mais je n'ai pas été suffisamment certainement explicite. J'ai essayé d'insister sur deux aspects, celui de la pauvreté, mais il n'y a pas forcément de relation directe de cause à effet. C'est le terreau. C'est souvent le terreau, mais ce n'est pas forcément la cause. J'ai insisté sur un deuxième élément qui était culturel. Et puis j'ai insisté sur la déperdition de la règle de droit, de l'éthique et du politique. Eh oui. Eh oui. Bon. Alors maintenant... Pour ce qui concerne, dans le cas de la Russie, par exemple, les ex-républiques de l'Union soviétique, c'est évident. Cela dit, alors vous m'avez posé une question à la fin, est-ce que je serais partisan...
Est-ce que vous pensez que la libéralisation des drogues pourrait changer...
Oui, alors à mon avis, oui. À mon avis, oui. À mon avis, oui. C'est évident. C'est évident, mais... Alors il y a un mais. D'abord, premièrement, je pense que les économies criminelles... recevrait de ce point de vue-là un choc. C'est-à-dire qu'd'une certaine façon, on désamorcerait une partie de la bombe. Mais, alors, il y a d'autres conséquences, et là, moi, je ne suis pas un spécialiste, je ne peux pas très bien les apprécier, qu'est-ce qui se passerait pour ce qui concerne les consommateurs de drogue? Alors là, point d'interrogation. Hein, point d'interrogation. Et d'un autre côté, il faut quand même bien savoir que si la drogue ne devient plus l'argument des économies criminelles et de certains groupes terroristes, ça sera autre chose. Il ne faut pas se faire d'illusions.
Merci.
Voilà, ben oui, mais si.
Toute dernière question en haut à droite, monsieur.
Dernière question. Monsieur.
Il est en
monsieur,
haut.
Je vous poserai des questions. Vous me voyez?
Ah oui, 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 ça y est. Bon. Oui, oui.
J'ai l'impression, puisque vous parlez de criminalité avec cette franchise, ouvertement, j'ai l'impression que votre description de la criminalité est incomplète.
Oh, ça certainement.
Vous avez parlé de mes compatriotes d'Amérique du Sud, comme d'autres du tiers-monde, des criminels parce qu'ils vendent, par exemple, la coca ou la cocaïne. Vous avez raison. La criminalité de ceux qui vendent la drogue ou le matériel pour la drogue, c'est mes compatriotes. Vous avez oublié votre compatriote des pays industriels qui vendent des armes mortelles et d'extermination massive.
Oui, bien sûr.
Deux questions. La première.
Une seule question, excusez-moi, on doit rapidement libérer les...
Rapidement. Est-ce qu'on peut dire que les criminels de la drogue des pays du tiers-monde servent, tel comme vous avez dit, à l'économie informelle et que les criminels qui vendent les armes d'extermination massive servent à l'économie formelle? Et oui, ma deuxième question.
Une seule
dans
question.
Dans ce cas-là,
je comprends pas ce qu'il
à part les syndicats et les consommateurs, qu'est-ce qu'on peut faire contre?
Attends, je comprends pas. Alors, ce que je voulais dire, c'est que. Enfin, vous répondre, c'est un petit peu difficile en quelques secondes. Mais vous avez raison de dire que, du moins, ce n'est pas l'impression que je voulais donner, mais c'est peut-être celle que j'ai donnée, c'est que la criminalité, c'est vrai que les économies informelles tendent à devenir criminelles, il y a des économies criminelles qui elles-mêmes criminalisent l'économie officielle. Mais l'économie officielle, d'une certaine façon, est elle aussi criminelle à certains égards.
en vendant des armes de destruction massive. Je ne l'ai peut-être pas noté parce que je ne pouvais pas tout dire, mais c'est vrai que c'est un point important. Cela dit, ce qu'on peut faire, ben, j'ai essayé de le dire à la fin, quand même, dans ma conclusion. Je crois qu'il y a un travail citoyen, dans tous les cas, à faire.
Merci beaucoup.